compagnon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, question classique, qui va lire et qu'allez-vous nous lire aujourd'hui ?
Eh bien, on va répondre dans l'ordre inverse de tes questions. D'abord, le livre choisi s'appelle « Le garçon » de Marcus Malte, publié aux éditions Zulma en 2016.
Bien.
Et à la deuxième question qui était posée en premier, qui va lire ? Eh bien, c'est plutôt Catherine qui va lire. Voilà, on s'est partagé les rôles comme ça aujourd'hui.
Publié en 2016, mais voilà, personnellement, je n'ai jamais lu de roman de cet auteur. C'est un Français, j'imagine.
C'est un Français. Alors, très honnêtement, je ne le connaissais pas. C'est une amie à moi qui, un jour, m'a présenté ce bouquin en me disant « Lis ça, tu vas voir, il est extraordinaire ». Je l'ai lu, mais alors, l'auteur, je ne l'avais jamais entendu. Et toi, Catherine ?
Eh bien, écoute, son nom me disait quelque chose. Il faut dire que j'aime beaucoup les éditions Zulma, mais je n'ai rien lu de lui. Alors, il faut dire aussi, comme il a écrit beaucoup de polars et que je ne suis pas très polar, peut-être une explication, je ne sais pas. Mais je ne regrette pas ta proposition.
Non, parce qu'on se retourne vers toi, Dominique. Franchement, c'est un bijou littéraire.
Un bijou.
Oui.
Un bijou, rien que ça.
Oui,
eh
ben, oui.
Écoute, tu
oui,
nous
oui,
as donné l'eau à la bouche. On va être pressé d'entendre, du coup. Explique-nous un petit peu de quoi passe ta parole, quand même.
Eh bien, alors, plutôt que d'essayer de résumer le bouquin, je vais laisser Catherine lire le prologue.
Même l'invisible et l'immatériel ont un nom, mais lui n'en a pas. Du moins n'est-il inscrit nulle part, sur aucun registre, ni aucun acte officiel que ce soit. Pas davantage au fond de la mémoire d'un curé d'une quelconque paroisse. Son véritable nom, son patronyme initial, il n'est pas dit qu'il en ait jamais possédé un. Plus tard, au cours de l'histoire, une femme, qui sera pour lui sœur, amante et mère, lui fera don du sien, auquel elle accolera en hommage le prénom d'un célèbre musicien qu'elle chérissait entre tous. Il portera également un nom de guerre, attribué à l'occasion par les autorités militaires en même temps que sa tenue réglementaire d'assassin. Ainsi, l'amour et son contraire l'auront baptisé chacun à sa façon. Mais il n'en reste rien. Ses succès d'années aussi seront voués à disparaître à la suite de cette femme et de cette guerre et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel elles avaient pris part. Qui le sait ? Pour peu qu'on daigne y croire, l'unique trace de son passage qui subsiste est celle-ci.
Eh bien, c'est du beau français, hein ? C'est du vocabulaire riche.
Oui, le vocabulaire est très riche là. Oui, tu fais allusion au mot
succès d'année.
Succès d'année. Exactement. Non, mais là, sur une seule page, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Mais sur l'ensemble du livre, il utilise en permanence un vocabulaire extrêmement riche.
Oui, c'est vrai. Hein. Il y a des descriptions. Et en fait, il ne se prive pas de citer les objets par leur nom. Exact, que ce soit la nature, enfin pour tout. Et c'est un régal. Et si on ne connaît pas un mot, ben on va le chercher. Voilà,
exactement.
Petit exercice.
Et donc, grâce à ce prologue, on a compris qu'on va suivre la vie d'une personne, d'un garçon de 14 ans au début d'histoire, en 1908. Ça se passe en 1908. Donc, un petit calcul, il est né en 1894.
On fait même du calcul ici.
Mmh. Ben oui, j'ai préparé.
D'où l'allusion au mot assassin. Et...
Voilà.
Oui, voilà, voilà, voilà.
On voit que la grande boucherie se prépare.
Oui.
Et on va suivre sa vie, hein, tout au long de sa vie, jusqu'à la fin. Hein. Et le fil conducteur pourrait paraître un petit peu pauvre, mais en fait, c'est un foisonnement d'aventures, de rencontres. Premier extrait choisi pour une présentation des personnages. Toujours Catherine à la lecture.
Le jour n'est pas encore levé et ce que l'on aperçoit tout d'abord au loin sur la lande est une étrange silhouette à deux têtes et huit membres dont la moitié semble inerte. Plus dense que la nuit elle-même et comme évoluant en transparence derrière ce voile d'obscurité. La paupière fronce à cette apparition. Doit-on s'y fier, on se demande, on doute. À cette heure, les gens dorment dans les villes, dans les villages, ailleurs. Ici, il n'y a rien, ni personne. Si la lune se montrait, elle n'éclairerait qu'un paysage de maquis, brut, désolé. Une terre indéfrichée. Qui va là ? Quoi ? On l'ignore. On scrute avec une attention accrue cette ombre insolite pour tenter de l'assimiler à quelque espèce connue et répertoriée, mais il n'y en a guère qui ferait l'affaire. À quel ordre appartient-elle ? De quelle nature est-elle ? On s'interroge, on la suit du regard. On la voit qui avance, courbée, l'échine déformée par une énorme protubérance, l'allure lente et quasi mécanique dans sa régularité. On devine, on sent qu'il y a dans cette démarche quelque chose qui tient à la fois du désespoir et de l'obstination. On pense à une tortue géante dressée sur ses pattes arrière, à un fabuleux coléoptère de la taille d'un jeune ours. On s'inquiète vaguement, on chasse ses pensées, mais elles reviennent. Car après avoir passé en revue les divers représentants de la faune courante en vain, on est bien obligé de lâcher les monstres, les vrais. Légendes et mythes remontent. On convoque le bestiaire des créatures primitives, archaïques, imaginaires, fantasmagoriques. On puise à la source de nos craintes les plus anciennes, de nos peurs les plus profondes. On frissonne. Et tandis que notre esprit bouillonne et se tourmente, là-bas la silhouette bossue continue de progresser pas à pas sur un chemin qui n'a jamais été tracé. On se rapproche, l'œil s'est aiguisé, il est capable à présent de trancher. D'un seul coup, il scinde l'entité en deux. Deux corps distincts, l'un sur l'autre. L'un chevauchant l'autre comme lors de ces parodies de joutes qui égayent les cours de récréation. Si un tournoi a eu lieu, il est terminé. Les adversaires tous disparus, vainqueurs ou vaincus, on ne sait. Ainsi donc, ils sont deux. Le mystère s'éclaircit quant à la nature de l'apparition, mais curieusement, on n'en est pas soulagé pour autant. On ne respire pas mieux, au contraire. Ils sont deux, mais qui sont-ils ? Que sont-ils ? Que font-ils ? Où vont-ils ? On n'a pas fini de s'interroger. Celui qui sert ici de monture a la stature d'un garçon de 14 ans, sec et dur, les côtes, les muscles, les tendons saillent à fleur de peau. Et par-dessus de vagues morceaux de tissu, un assortiment de frusques vraisemblablement constitués sur le dos d'un épouvantail. Il va sans chaussures, les plantes de ses pieds ont la texture de l'écorce, du chêne-liège. Ses cheveux ruissellent sur ses épaules et sur son front tel un bouquet d'algues. Il est en nage, il luit, émergeant tout juste, dirait-on, de l'océan originel. La sueur lui sale les paupières au passage, puis s'écoule en suivant le chemin des larmes. Une goutte se prend parfois dans la jeune pousse de duvet qui ourle sa lèvre supérieure. Ses yeux sont noirs, plus noirs que le fond des âges, où palpite pourtant le souvenir de la prime étincelle. C'est l'enfant. Celle qui pèse sur ses reins n'a rien d'un chevalier sinon la triste figure. Une femme. Ce qui reste d'une femme, les reliques, sous les loques des bouts de bras qui dépassent, des bouts de jambes, la chair qui semble fuir du tas de hardes comme la paille d'une vieille poupée. Elle ne pèse pas lourd en vérité, mais c'est un poids presque mort, ballottant à chaque foulée. Son crâne repose entre les omoplates du garçon. Ses paupières sont closes. Elle a le teint cireux, la peau flétrie des pommes sauvages tombées de l'arbre. On lui donne 60 ans. Elle n'en a pas 30. C'est la mère. If you dance on
Alors, vous l'avez compris, la mère en question, bien que n'ayant pas 30 ans, n'est plus dans la force de l'âge, hein, ça, on peut le dire. Et en toute logique, eh bien, elle meurt. Alors, je peux le dire, hein, normalement, on ne révèle pas des choses comme ça, mais là, on n'en est vraiment qu'au tout début du bouquin. Donc, je peux l'annoncer aux gens, elle meurt.
Et puis, ça se fait pas, mais...
Et puis, en plus, on a aucun échange avec elle.
Mais non, aucun,
dit, c'est
oui.
Mère. Car elle veut voir la mère avant de mourir.
C'est ça, c'est ça.
Qu'elle ne verra pas, en fait, mais elle ne le sait pas.
Et comme elle meurt, eh bien, ça va permettre à ce jeune garçon eh bien, de faire des rencontres. Et le bouquin est toujours construit là-dessus. Hein, une apparition, une rencontre qui dure un certain temps, puis... Pour une raison ou pour une autre, là en l'occurrence c'est parce que la mère meurt, eh bien le garçon est obligé d'aller vers d'autres horizons. Le bouquin sera toujours construit de cette façon-là. Donc, eh ben, puisque la mère meurt, il faut bien passer aux rencontres. Eh bien, je vous ai sélectionné une première rencontre.
À la mi-août, il se retrouve à moins de 10 km à vol d'oiseau de son point de départ. Depuis 3 jours, il a élu domicile dans un four à cadres, à l'abandon. La garrigue s'étale partout autour. Le four n'a pas chauffé depuis des lustres, mais la construction est entière, inaltérée. Un modèle de maçonnerie en pierre sèche. L'édifice est placé sous la protection non de la Vierge, mais d'une tarente qui en garde l'accès, immobile, immuable, pareil à un bas-relief sculpté sur le linteau de l'entrée. De petits scorpions noirs en éhorte sommeillent entre les lauzes en attendant le soir. Le garçon dort aussi. Il s'est assoupi dans la niche du four au retour d'une de ses expéditions. Lorsqu'il émerge de sa sieste, il est 6 heures de l'après-midi. Son corps est verni de haut en bas d'une couche de sueur. Il boit. Après quoi, il range l'outre dans la sacoche qu'il referme et passe en bandoulière. Puis il se dresse sur ses jambes et sort. À peine le seuil franchi, il doit faire face au double canon d'un fusil pointé sur son front. 2 sombres orifices, si près qu'ils le font loucher et le refroidissent d'un coup. L'homme qui le tient en joue est pratiquement de sa taille. Il a une barbe de 3 jours et des cheveux couleur cuivre, à moins que ce ne soit les rayons du soleil déclinant qui lui infligent ses reflets roux. Un lièvre mort pend à sa ceinture. L'œil ouvert et vitreux. Une coulure de sang séché sort de l'oreille de l'animal et souille sa fourrure. Le garçon ne bouge pas. Il regarde le fusil et il regarde le lièvre mort. Et il se souvient du bruit terrible qui avait éclaté au cœur de la nuit et qui avait failli décrocher le sien. Il regarde l'homme, et l'homme lui rend son regard. Il fixe le garçon avec des yeux qui à cet instant sont plus noirs que bleus. « C'est quoi ?» demande la gamine. « T'occupe, » dit sa mère. « Vagabond, » dit son père. « Moi, je dirais que ça ressemble à un de ces romanichel, » dit Eugène. « Mauvais augure !» siffle Génie. « C'est quoi un roi Nichel ?» demande la gamine. « Rien de fameux !» dit son père. « La peste et le choléra !» siffle Génie. « Y a pas un cirque qui est passé dans le coin ?»« Pas qu'on sache. »« C'est un gars ou une fille ?» demande le vieux Blaise. « Je vois pas bien d'ici. » Pourtant, on peut pas dire qu'il reste grand-chose à cacher. Hein. Ça fait combien que vous n'avez pas vu une dame, Blaise? Vous vous rappelez comment que c'est fait, au moins? Tais-toi, Eugène, siffle Génie. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il dit? Demande Napoléon. Rien, répond le père de la gamine. Bah, vous lui avez demandé? Non. Il comprend peut-être pas notre langue, suggère Marie-Aimée de sa voix douce. Un étranger, tu veux dire? Bon, il en arrive de partout, dit la mère de la gamine. En ville, on a même vu débarquer des colonies le mois dernier. Des moricots, tu veux dire? Toute une famille au complet, à ce qui paraît. On est envahi. La huitième plaie, siffle Génie. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Toi, comprendre le français, beugle Eugène? Elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres. Mais pourquoi vous criez comme ça? Dit Napoléon. Il n'est pas sourd. Bah, on ne sait pas, si ça se trouve. C'est vrai qu'il va manger tous les fruits? Demande la gamine. Je crois que vous lui faites peur avec vos grosses voix, suggère Marie-Aînée de sa voix douce. Je suis sûre qu'il s'est échappé, dit Pierre. Échappé? Le fils a pas tort, dit Eugénie. Maintenant qu'il dit, je trouve qu'il a bien une tête d'évadé. Évadé? Mais évadé de quoi? Demande le père de la gamine. Est-ce que je sais, moi, de la prison, du bagne, n'importe. Peut-être bien de chez les fous, pourquoi pas? Bah, il a pas l'air toqué. Il a pas l'air bien d'aplomb non plus, hein? Il serait comme le gazou, dit la vieille Honorine. On n'a pas besoin d'eux, hein? Celui-là, il baffe pas, dit la mère de la gamine, c'est déjà ça. Et où c'est que vous l'avez trouvé, Lucien? Demande Napoléon. Au four de Borel, il dormait dedans. Il dormait dans le four? Ouais, je l'ai cueilli au réveil. Et toi, Diogène, qu'est-ce que t'allais foutre par là-bas?
Moi, ben, je vais ben où ça me chante, non? Ben, pour sûr, c'était juste histoire de dire, hein?
Je guignais cette bestiole, tu vois.
Dis donc, tu l'as pas loupé, la garce.
Eugène, siffle Génie. Quelle bestiole? Demande le vieux Blaise. De quelle bestiole il parle? Je vois rien d'ici.
Un lièvre, dit la vieille Honorine. Un beau.
Faut que vous achetez des bésicles, Blaise. Bientôt, vous verrez plus votre nez pour vous moucher.
Et s'il dormait dans le four, c'est qu'il ne doit pas avoir de toit, suggère Marie-Aimée de sa voix douce. Ce doit être un pauvre orphelin qu'on a chassé ou qui s'est perdu.
On va le manger? Demande la gamine.
Le manger? Dit sa mère. Mais qu'est-ce que tu racontes encore?
Bah, le lièvre. On va le manger? Dit la gamine.
Qui rêve encore de l'Amérique? Ce shopping mall pas démocratique. Tout est si différent maintenant. Mais qui peut encore rêver tout court quand tout est flippant aux alentours? Tout est si différent maintenant. En attendant patiemment la fin du monde. Quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité. Agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Tout est si différent. La fin du monde. Tout est si différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde, la fin de nous. Nouveaux dinosaures, on finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre et qui attend bien patiemment la la fin de son air.
Bien, eh bien, il est curieusement accueilli, ce petit. On se méfie de lui, un peu.
Bah, tu sais.
Oui, tu pourrais même dire, a priori, ça paraît pas drôle, hein, c'est ça.
Il n'osait pas le dire.
Tu ne pensais qu'il n'osait pas le dire. Et je voudrais rassurer les auditeurs. Eh bien, on n'en est encore qu'au début du livre. Et c'est vrai que moi-même, je reconnais que j'ai peiné au début. J'ai peiné, effectivement, dans ces scènes-là. Mais je les ai quand même sélectionnées parce que ça augure de la suite. Mais il y a des scènes qui vont être très rigolotes. Et la scène suivante, justement, va l'être. Et donc, je donne quelques explications un petit peu parce qu'on va aller plus loin. Donc, ce garçon qui ne parle pas.
C'est un enfant sauvage, en fait.
Oui, ma femme l'a considéré un petit peu comme ça. Moi, je ne sais pas, parce qu'il évolue drôlement. Tu penses au film de Truffaut, là.
Oui,
et l'enfant sauvage reste toujours sauvage. Alors que là, ce jeune garçon, il va énormément évoluer quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que j'hésite pour ça. Mais par contre, simplement, il est mutique. On peut le dire, il est et il restera mutique.
Juste une question. Dans le livre, on a une petite idée d'où il vient ?
Jamais.
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 La seule chose, c'est que jusqu'à de 0 à 14 ans, il n'a vécu. Enfin, le seul être humain qui l'ait croisé, c'est sa mère.
C'est sa mère.
C'est tout.
Dans cette cabane.
Pour ça que tout est nouveau. Même la carabine sur le front, il réfléchit, il fait le lien entre le bruit qu'il a entendu, l'animal mort. Mais tout, il découvre tout, quoi.
Et donc, il s'insère dans ce village qui n'est pas bien évolué non plus, quand même. Hein, c'est la France profonde du début du siècle dernier.
C'est un hameau. Il y a 13 habitants dans le hameau.
Mais il y a une jeune femme qui parle à chaque fois d'une voix douce.
Il y a
chaque fois qu'elle parle, c'est d'une voix douce.
Comme ça, les choses sont posées.
Heureusement qu'elle est jeune femme. Hein.
Bon, dites, j'avance un petit peu.
Vas-y, on te laisse parler. Allez.
On va passer l'heure. On se rapproche de Noël. Et à l'époque, je les regarde en ce moment à chaque fois, et de peur qu'ils me coupent. Mais non, je peux continuer. On se rapproche de Noël. Et à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Ça, c'est pour nos jeunes auditeurs. Hein. Il y a eu une époque où il n'y avait pas la télévision. Et donc, eh ben, dans les hameaux, dans les villages, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh ben, on était obligé de se créer des jeux, des choses comme ça.
Des fêtes.
On se faisait interdire.
Pour créer une dynamique, voilà. Et donc, à Noël, là, dans ce village-là, ils vont créer, effectivement, toute une scène auquel le garçon va participer. Peu importe les personnages que vous allez entendre, je dis ça pour les auditeurs, hein. Il y a des tas de personnages du village, mais peu importe qui ils sont. Par contre, vous allez entendre parler, à un moment, du gazou. Alors, le gazou, c'est l'idiot du village. C'est l'idiot du village. Là, je me tourne vers...
C'est gentil. Ah ben, c'est gentil. Ah non.
Mais non.
Ah, c'est agréable.
Vous pouvez me faire dire ce que je ne voulais pas dire. Non, je me tourne à nouveau vers les jeunes auditeurs. Autrefois, il y avait une expression qui disait bien l'idiot du village. Et oui, parce que des fois, on quittait l'école dès 14 ans avec simplement le certificat d'études en poche. Et puis, il y avait toujours un béné qui partait avant les autres. Bon, ben, on l'appelait l'idiot du village. Dans mon village à moi, Dominique, il y en avait un. Un idiot du village, voilà.
Ah oui.
Et bien là, dans ce hameau, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, c'est le gazou.
L'hiver s'est installé. Le soir de Noël, le garçon a l'insigne honneur de prendre part à la crèche vivante. Une représentation incarnée de la nativité. C'est Eugénie, la femme de Jeannicot, qui a instauré cette pratique. Eugénie Jeannicot n'aime guère son prochain, mais elle aime Dieu, ce qui n'est pas incompatible, semble-t-il, et même plus répandu qu'on ne pourrait le penser. Par trois fois, la femme vipère avait enfanté. Deux filles, pour commencer, qui s'étaient dépêchées de pousser puis de convoler avec des gars de la ville, et aussi vite elles étaient allées s'établir. Eugénie Jeannicot avait placé beaucoup d'espoir en son dernier né, un mâle, enfin. Tout au long de ses premiers mois et même de ses premières années, maintes fois elle avait vu l'enfant marcher sur les eaux, en songe et en pensée.
Bien qu'elle sût que c'était péché d'orgueil, elle ne pouvait s'ôter de l'esprit que le fruit de ses entrailles avait été désigné entre tous pour être le nouvel émissaire, le digne successeur de l'autre. Et si son fils était l'élu, elle, la mère, de fait, l'était aussi. Les nuits de grande exaltation, elle se refaisait une virginité, persuadée que son mari Eugène n'était pour rien dans la conception de l'enfant et qu'elle s'était retrouvée grosse par la seule grâce du Tout-Puissant. La première fois que Eugénie avait soumis cette idée de crèche à ses voisins, elle s'était attendue à plus de réticence de leur part. Elle tenait à ce que le hameau entier participât, que chacun des habitants en fût acteur, mais aussi, surtout, qu'il fût le spectateur privilégié, le témoin ébloui de l'avènement de son divin enfant. Il faut croire que sa foi et sa ferveur lui avaient dicté les mots justes pour convaincre, ou bien il faut croire que les distractions n'étaient pas si nombreuses et qu'on pût se priver d'une. Tous avaient accepté de se prêter au jeu. Au fil du temps, il avait donc été nécessaire d'accorder la distribution avec la courbe de croissance de la population, mais la tradition était solidement établie et personne n'aurait songé à la remettre en cause. Ce soir à nouveau, tous se préparent pour la venue du Sauveur. Dehors, il fait nuit noire. La troupe se rassemble dans la grange des Siffres. Lanternes et quinquets sont disposés aux endroits stratégiques définis par Eugénie. Elle n'est peut-être plus aujourd'hui la Sainte Vierge, mais elle demeure la grande prêtresse, la maîtresse incontestée de la cérémonie. C'est elle qui distribue les rôles. Elle se réserve désormais celui de la récitante. Légèrement à l'écart, raide comme un cierge, elle présente. Elle raconte l'histoire. Elle psalmodie ou elle chante. Comme à l'accoutumée, tous les habitants ont été réquisitionnés, excepté Joseph, qui décline l'invitation depuis la mort de sa femme. Mais Joseph a des représentants, son bœuf et sa mule. Le bœuf joue le bœuf et la mule joue l'âne, et ce sont certainement les interprètes les plus fiables du lot. Le garçon assiste aux ultimes préparatifs, affublé d'un informe bonnet rouge qui sera son seul accessoire. Pour sa première participation, il serait faux de prétendre qu'il a saisi la nature de ce qui doit se dérouler. Néanmoins, il connaît sa partie. Elle est simple et concise. On lui a assigné un rôle qu'on aurait pensé dévolu au gazou, celui du ravi. Car il s'agit d'une nativité qui tient à la fois du mystère et de la pastorale, où se mêlent la Provence et la Judée, les personnages bibliques et les figures typiques du village. Dans l'après-midi, la femme vipère la fait répéter. Tout ce qu'il devra faire à son signal sera de s'avancer vers le berceau et lever bien haut les bras en exhibant un large sourire afin de manifester la joie extatique qui l'envahit à la naissance du Christ. Il a compris cela. Quant au gazou, on lui confie la meule. L'expérience a prouvé que c'était la seule façon d'éviter qu'il n'aille piétiner les plates-bandes de Marie. Il est le rémouleur. On lui fournit l'outil ainsi que de vieilles lames hors d'usage et pour l'unique fois de l'année et pour son plus grand bonheur, il a le droit d'aiguiser à volonté. Minuit approche, le silence se fait. On a beau dire, les cœurs battent plus vite, plus fort, car nous voici en Terre Sainte. Il y a bien longtemps de cela, commence Eugénie. Mais sitôt a-t-elle ouvert la bouche que le gazou actionne sa meule. L'essieu grince, le métal crisse contre la pierre de grès. Il faut imaginer les stridulations de monstrueux grillons dans les collines arides de Galilée. Il y a bien longtemps de cela, reprend Eugénie en élevant la voix, dans la petite ville de Nazareth vivait Marie. Depuis la stalle qui sert de coulisse s'avance Marie-Aimée. C'est elle qui a repris le flambeau de la virginité. Elle marche à pas menus en battant des cils. Marie demeurait chez elle, récite Eugénie, lorsque tout à coup survint un ange. Et voici Pierre qui sort de l'ombre. Lui, l'ancien Jésus, déchu, relégué au rang de simple commissionnaire. Il est vêtu d'une chasuble taillée dans un drap, d'où dépassent ses godillots usés. On sent que le chemin fut long et difficile pour en arriver là.
Pierre se racle la gorge, il crache dans la paille et dit... « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Je suis Gabriel et Dieu m'a confié un message pour toi. »
Il ne parle pas, il grommelle. Ses paroles sont couvertes par la meule du gazou. Marie-Aimée s'agenouille à ses pieds.
« Ouais, t'as été choisi pour un grand service, » dit Pierre. « C'est toi qui vas mettre au monde le fils du Très-Haut. »
« On n'entend rien, se plaint le vieux Blaise en coulisses. »
Lucien à ses côtés hoche le menton.
« La connaissez pas encore, l'histoire ?»
Marie ne comprenait pas, récite Eugénie. Elle rappela à l'ange qu'elle n'avait point encore connu l'homme, mais l'ange, afin de lui prouver qu'il disait vrai, lui annonça une bonne surprise. Sa cousine Élisabeth, malgré son grand âge, attendait un fils. La vieille Honorine se présente à son tour soutenant son ventre de parturiente constitué d'une baudruche remplie de foin qui tremblote sous sa robe à chacun de ses pas. Elle adore ce rôle qui ressuscite en elle des sensations mortes depuis une éternité. « Mon cœur est plein de joie », dit alors Marie-Aimée en écartant largement les bras. L'âne remue la queue. Le gazou entame sa deuxième lame et la vieille Honorine se retire pour aller accoucher de Jean-Baptiste. Le garçon ne perd pas une miette de tout cela. Ses yeux vont et viennent entre les personnages et la récitante. Il se tient prêt, guettant le signe convenu pour son intervention. Joseph arrive, le charpentier. Il a en l'occurrence les traits de Napoléon, le frère jumeau de Marie-Aînée. On le voit qui tourne en rond en se frottant ostensiblement la barbiche d'un air soucieux. Joseph était inquiet, récite Eugénie. Marie et lui n'habitaient pas encore sous le même toit et il était gêné qu'elle attende un enfant. Mais l'ange le rassura en lui disant que l'enfant était engendré par Dieu. Et l'ange ajouta « C'est toi qui lui donneras son nom. »
« Tu l'appelleras Jésus, » dit Pierre.
« Jésus, » répète Eugénie.
« Il sauvera son peuple toutes ses fautes, » dit Pierre, « et son règne n'aura pas fin. »
« Son règne sera éternel, » répète Eugénie. Napoléon pose une main sur son cœur. « Alors Joseph fut comblé de bonheur, » récite Eugénie, « et il épousa Marie pour prendre soin d'elle et de l'enfant à venir. » Et tandis que le frère et la sœur s'avancent l'un vers l'autre et s'enlacent, des regards entendus s'échangent tout autour. Car il se murmure depuis longtemps que l'amour entre ces deux-là ne serait pas que fraternel, qui s'en passerait de belle la nuit sous leur toit. Que la Marie serait aimée plutôt deux fois qu'une et que le Napoléon n'aurait pas attendu la venue d'un ange pour trouver sa voie. Pierre retourne vers le fond de la grange en traînant les pieds. Il n'est pas au bout de sa déchéance. Pour le tableau suivant, il doit troquer son costume d'archange contre la peau de bête d'un modeste berger. Les époux, récite Eugénie, se mirent bientôt en route pour la ville de Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent, personne ne leur fit de place. Ils trouvèrent refuge dans une grotte. Elle ponctue ses paroles d'un léger mouvement de la main comme pour désigner au couple le piètre emplacement qu'il leur est réservé. Le signal. C'est ainsi que le garçon interprète ce geste. Aussitôt, il se met en branle, paraît de son bonnet rouge et conscient que toutes les têtes d'un coup pivotent dans sa direction. À cet instant, il semble être le personnage central du drame. Tout repose sur ses épaules. Malgré ce poids, il continue d'avancer bravement jusqu'à l'endroit indiqué entre le bœuf et l'âne. Puis il se renverse et lève les bras au ciel aussi haut qu'il peut. Et il sourit de toutes ses dents au-dessus du berceau vide. S'ensuit un moment de muette consternation durant lequel les stridulations métalliques des grillons paraissent doublées d'intensité. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande le vieux Blaise. Personne ne lui répond. Joseph et Marie regardent leur avis d'un air médusé, puis ils se regardent, puis ils regardent Eugénie, qui elle-même darde sur le garçon un œil noir saturé de venin. « Pourquoi ?» se demande-t-elle. « Pourquoi le Très-Haut lui inflige-t-il de pareilles épreuves avec tout ce qu'elle fait pour lui ? Mais pourquoi ?» Elle ferme les yeux, inspire, expire longuement. Ainsi soit-il. « Le temps, » reprend-elle, « le temps était venu pour Marie d'enfanter. » À ces mots, Marie-Aimée tressaille, baisse les yeux sur son ventre, l'espace d'une seconde, croyant réellement perdre les os, puis elle comprend soulagée et se dirige vers un coin de pénombre où l'attend Gabriel, non pas une archange femelle, mais la mère de Victor, l'enfant vert, qu'elle porte justement au bras. Le nouveau Messie, c'est lui. Marie-Aimée récupère le bambin, il mâchouille un sucre d'orge qu'on a pris la précaution de lui donner afin qu'il se tienne tranquille. Il en a déjà partout. La bouche, le menton, les mains de Jésus luisent d'une salive gluante comme du sirop. Marie dépose l'enfant dans le berceau. « Le Seigneur est né !» récite Eugénie, les mains jointes. « Alléluia !»«
Alléluia !» reprend le cœur.
Et chacun peut enfin s'associer légitimement à la joie du ravi. « C'est à nous ?» demande le vieux Blaise.
« Pas encore, » dit Lucien. « D'abord, les bergers. »
Ils sont là. Pierre, jadis fils de Dieu, naguère archange, à présent pauvre pâtre, accompagné de la gamine blanche, tous deux armés d'un long bâton noueux. Les bergers, récite Eugénie, se dépêchèrent d'aller à Bethléem reconnaître Joseph et Marie et l'enfant couché dans la crèche. Ils marchent, c'est une longue route et la fatigue les accable. En arrivant, ils se penchent à leur tour sur le berceau et ce que voit la gamine en vérité, ce n'est pas Jésus, mais uniquement le sucre d'orge qu'il a dans la bouche. Elle louche dessus, elle en bave aussi, mais d'envie. Le garçon a toujours les bras en l'air, il n'ose pas bouger car on ne lui a pas précisé combien de temps il devait garder la pose. Le gazou entame sa troisième lame. Après cela, récite Eugénie, des mages venus de l'Orient arrivèrent en Judée, guidés par l'étoile. Lucien donne un coup de coude au vieux Blaise, ils se mettent en route. Eugène leur emboîte le pas et bientôt tous trois arpentent la grange en une procession d'iconoclastes bédouins. Blaise est un Melchior plus vieux qu'Hérode, le crâne ceint d'un ruban mauve qui le démange. Lucien s'est passé la face au brou de noix afin de représenter le noir Balthazar. Toutefois, des mèches rousses s'échappent du mouchoir qui lui tient lieu de keffier et davantage qu'au roi d'Afrique, c'est au petit ramoneur qu'il fait penser. Quant à Eugène, il reste Eugène, quelle que soit sa tenue. Et c'est sans doute le Gaspard le plus goguenard qu'on ait jamais croisé dans toute la chrétienté. Les mages reconnurent l'enfant roi, récite Eugénie, et lui offrirent en présent l'or, la myrrhe et l'encens. Eugène s'exécute le premier, se prosternant et déposant son paquet, et gratifiant ensuite le fils de Dieu de quelques gousi-gousis et chatouilles dans les plis du cou, où le jus s'insinue maintenant comme un filet de mélasse. Après quoi il s'éclipse promptement afin d'endosser un nouveau costume et un nouveau rôle à sa mesure. Lucien prend sa place. Quand vient le tour du vieux Blaise, sa mauvaise vue, encore une fois, le trahit. Il bute contre le berceau, manque de le renverser. Dans le choc, le sucre d'orge glisse des mains du bambin et choit par terre dans la paille. L'aubaine est trop belle pour la gamine, qui lâche son bâton de berger et se jette sur la friandise et se l'enfonce dans la bouche, paille comprise. Voyant cela, Jésus se fige, saisi. Puis ses traits se contractent et la colère divine éclate dans un puissant braillement. Alors, récite Eugénie, ils accoururent de partout, des gens de toutes les nations, pour célébrer la naissance de notre Seigneur. Accourt en effet Gabriel en costume d'Arlésienne, alerté par les cris de son fils. Accourt la vieille Honorine, changée en lavandière. Accourt Eugène, métamorphosé en tambourinaire, frappant sur son tambourin en soufflant gaiement dans un galoubet, duquel il tire des sons non moins mélodieux que celui des freins d'une locomotive. Alléluia ! S'exalte Eugénie, Alléluia ! Le divin enfant s'est dressé dans son berceau en pleurs. À défaut de récupérer son bien, il réussit à agripper les cheveux de sa sœur et il tire dessus. Et la gamine ôte le bâtonnet de sa bouche afin de laisser libre cours à son propre vagissement. La terre entière et tous ses habitants baignent dans l'allégresse et la félicité, récite Eugénie. Oh allégresse, oh félicité, alléluia!
Alléluia! Reprennent en cœur tous ceux qui ne brament ni ne pleurent.
L'Arlésienne de Bethléem en profite pour se faufiler jusqu'au berceau. Elle considère un instant son fils suspendu à la tignasse de sa sœur, après quoi elle assène une grande claque sur la nuque de celle-ci.
Alléluia!
Les cris de la gamine redoublent, le sucre d'orge lui échappe, retombe sur le sol de la grange où Melchior, le vieux Miro, l'écrase sous sa semelle et le réduit en poudre.
Alléluia!
Le Christ braille de plus belle, sa bouille prend la teinte écarlate des grenades d'Israël. Gloire à Dieu, chante Eugénie, gloire à Dieu et paix à tous les hommes qu'il aime. Le sang reflue dans les bras toujours dressés du garçon, la crampe le guette, son sourire d'extase se mue peu à peu en une sorte de rictus démoniaque. Gloire à Dieu, chante Eugénie, l'âne braie, Eugène souffle et martèle, le gazou entame sa quatrième lame et les grillons de Judée se déchaînent. Et soudain, dans cette apothéose, une odeur épouvantable monte du berceau de l'enfant Jésus. Si grand est son courroux qu'il en a souillé ses langes. Le garçon fronce le nez, parachevant ainsi son affreuse grimace, et l'on pourrait penser qu'il a enfin conquis sa place parmi les hommes, car rien à cet instant ne le distingue de ceux qui l'entourent. Qu'y a-t-il de précieux? Mais qu'y a-t-il de sacré? Eux savent. Try to express
Bon, alors, elle était rigolote, la scène.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est très, c'est très visuel, hein. C'est très bien décrit.
J'espère, oui.
Oui, on imagine bien le garçon qui ne comprend rien, qui se met devant le berceau.
Et c'est ça, c'est ça, qui est encore vide.
Le petit Jésus n'est pas encore arrivé.
Alors, en plus, dans le livre, on se rend compte qu'il y a, comme on dit en bon français, un running gag. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des trucs absurdes comme ça, il dit « Ouais, mais eux, ils savent. »
Oui.
Ça a l'air de dire, moi je suis une andouille, mais eux ils savent,
Ce qu'ils font.
Et, voilà. Et tu vois à quel point eux ils savent, quoi. Oui, juste une parenthèse, c'est pas facile quand il y a des petits dialogues serrés hein, de lire les personnages. Là, heureusement que tu m'as donné un petit coup de main, hein, Hervé, parce que c'est pas facile.
Oui, encore je ne t'ai donné qu'un sur un seul personnage. Ouais. On aurait pu être plus nombreux que ça. Ouais.
Oui, mais il aurait fallu être au moins 10 là.
Ah oui, au moins.
Non, ça coûte trop cher à la production. Pas possible.
Ah, donc c'est pas possible. Ah ben oui, bien sûr, on comprend.
Ben oui, Hervé, tu multiplies notre cachet par 10, tu vois un peu l'état du producteur.
Joseph se trouve d'un coup ruiné. Tout à fait. Faudrait être sur France Inter.
Allez, trêve de plaisanterie.
Bon, alors, avec la verve de l'auteur qu'on commence à lui connaître, il y a des scènes qui vont sortir de l'ordinaire. Et je le rappelle, j'ai déjà dû. Moi, j'ai été époustouflé par ce livre. Mais comme le but de cette émission, c'est de donner envie de lire ce bouquin, il y a plein de rencontres, mais j'en ai coupé beaucoup. Par contre, j'en ai sélectionné une de rencontres, la principale, qui va arriver bien plus tard. Cette rencontre sera primordiale parce qu'il va enfin rencontrer l'amour avec Emma. Et alors là, je me tourne vers toi, Catherine. Emma, elle va lui écrire des scènes, des lettres d'amour, comme on n'en a jamais reçu.
Alors, on va être honnête avec nos auditeurs. Si vous voulez lire ces lettres d'amour, eh ben, il faut que vous preniez le livre, hein, parce que je ne vais pas en lire une seule.
Non, non.
Il faut être cruel un peu.
Oui, il faut être un petit peu cruel.
Mais c'est vrai qu'elles sont belles.
Ah oui, elles sont belles. C'est vraiment, ça déchire sa mère. C'est une expression.
Mon Dieu, on est tombé bien bas.
Ça déchire sa mère.
Ça déchire sa mère. Bon, j'ai fini par choisir la rencontre entre ces deux êtres, Emma et le garçon. Et puis, ben, Catherine, c'est à toi.
Nous sommes le 14 juillet et le peuple de France s'apprête à célébrer pour la 30e année sa fête nationale. Les bals se préparent, les places se parent de cocardes et de fanions. On astique les accordéons, l'air est léger où se mêle un parfum de réjouissance et des effluves de boissons fermentées. La République est belle, la liberté sent bon. On ne songe pas encore qu'il faudra les défendre et le prix qu'il en coûtera, on ne pourrait même pas l'imaginer. Dansez, jeunes gens, dansez tant que vous avez des jambes. Riez tant que vous avez des dents et autre chose dans la bouche que de la boue. Les pas du Hongre les ont conduits aux abords d'un village nommé Toussus-le-Noble. C'est le milieu de l'après-midi. La roulotte longe le haut mur d'enceinte d'une propriété derrière lequel on ne distingue entre les feuilles de marronnier que l'ardoise grise d'un toit. Soudain, une sorte de pétarade se fait entendre, dans laquelle le garçon finit par reconnaître le moteur d'une automobile. À une trentaine de mètres, devant lui, le chemin se courbe. Il ne peut voir ce qui se rapproche, mais il l'entend. Le bruit s'accroît. De lui-même, le cheval s'immobilise, ses oreilles sont couchées. Le garçon fixe l'entrée du virage. Le temps d'une inspiration, le vacarme s'atténue avant de reprendre de plus belle. C'est le moment où l'auto débouche. Un double phaéton jaune vif nimbé d'une gaz de poussière et de fumée. L'engin oscille. Les roues tressautent sur la terre, la tôle vibre. Quand bien même sa trajectoire serait stable, la voie est trop étroite pour deux véhicules de front. La voiture se déporte, elle serre sur sa droite contre le mur et le fer racle la pierre dans un long crissement et des crépitements d'étincelles. En 3 secondes, la distance qui les sépare est abolie. Un grand rire éclate, c'est le hennissement du Hongre affolé et c'est la première fois que le garçon l'entend. L'auto évite de justesse le cheval mais percute la roue de la roulotte. L'essieu cède. Par réflexe, le garçon s'est à demi dressé sur ses jambes. Dans le choc, il bascule et tombe tête la première du côté de l'automobile. Son crâne s'écrase contre la carrosserie. La dernière chose qu'il perçoit est une voix d'homme et un prénom. « Emma !» lancée comme une supplique ou une injonction. Après quoi, les ténèbres le happent.
Son œil s'égare et lui, sa chevelure traîne, sa tête pend. Son sang rougit, la jaune arène.
Elle joue depuis plus de 3 heures, bien que l'on ait scrupule à appeler ça jouer. Elle répète, elle s'acharne. Davantage qu'en mélomane, c'est en croisée qu'elle paraît agir. C'est sa foi, sa guerre, c'est sa manière de les concevoir et c'est ce qui fait courir ses mains sur le clavier. Sa pénitence aussi. Quand d'aucuns parcourent à genoux leur chemin de croix, elle laboure le sien à la force du poignet. Elle martèle. Il se peut qu'elle n'en soit pas pleinement consciente, mais le serait-elle que même sous la torture, elle ne l'avouerait pas. Fenêtres et volets sont clos, le jour décline. Flotte encore dans la pièce interne halo de lumière qui se retire graduellement comme l'écume sur la grève. La chaleur reste, la moiteur, une mince pellicule de sueur couvre ses bras et son front. Les plus fins de ses cheveux collent à sa tempe. Une perle unique, translucide, est prise dans cet écheveau de soie noire, telle une goutte de rosée, tôt matin sur la toile des arachnides. Ses doigts glissent, dérapent sur les touches d'ivoire. Le piano est un gaveau.
Voilà l'infortuné gisant, nu, misérable, tout tacheté de sang plus rouge que l'érable dans la saison des fleurs.
Il y a longtemps que le pendule du métronome a cessé de battre. Elle n'a pas remonté le mécanisme. Elle ne lâche l'instrument que pour s'essuyer les paumes sur ses cuisses, sans façon d'un geste d'ouvrier ou d'artisan. Aussi sec, elle repart à l'assaut, toute griffe en avant, qu'elle plante rageusement dans la large gueule béante, comme pour lui arracher ce sourire plein de dents et de chicots qui la défie. Ses propres mâchoires sont serrées. Les ailes de son nez se pincent, se creusent. Une partition s'étale sur le pupitre, mais elle ne la regarde pas. La pénombre confond notes et portées. Elle n'en a pas besoin. Ce qu'elle voit est au-delà. Ce qui défile devant ses yeux est un cheval au galop portant sur son dos un homme nu ensanglanté, lié dans son supplice à sa monture et lancé avec elle dans une course folle à travers les steppes et les nues.
Il traverse d'un vol sur tes ailes de flamme tous les champs du possible et les mondes de l'âme.
Elle les voit, l'homme, le cheval, le cavalier au désespoir et l'animal qui fume sous l'effort. Et ce qu'elle entend d'abord, c'est la cavalcade des mots jaillis sous la plume de Victor le Magnifique. Hugo, encore lui, est-ce un hasard? C'est la terrible et fantastique chevauchée de Mazeppa.
Dans la nuit orageuse ou la nuit étoilée, sa chevelure, au crin des comètes mêlées, flamboie au front du ciel.
Et Litz, bien sûr, uniquement Litz. Elle sait qu'elle n'y arrivera pas, ni ce soir, ni plus tard, ni jamais. C'est un morceau trop gros pour elle, simple mortelle, un sommet trop élevé, hors d'atteinte. Mais le savoir ne change rien. Pour chaque pièce, il y a une monnaie à rendre. Elle ira au bout de ses forces, aussi loin, aussi haut qu'elle peut, et après ça que le diable les emporte, elle et l'homme et la bête, tous ensemble s'il doit en être ainsi, et qu'il emporte aussi, tant qu'à faire, tous ces maudits génies, compositeurs et poètes. D'ailleurs, n'est-ce pas lui, le malin qui frappe soudain à la porte ? Deux coups nets dans son dos. Emma, elle sursaute. Le cheval trébuche, mais ça ne dure qu'une seconde. Aussitôt, elle se reprend. Ses mains se plantent à nouveau et ses doigts fouillent encore plus vite et plus fort. L'animal repart. Ses quatre fers laminent le sol. « Emma, tu m'entends ?» Elle ne répond pas. Elle continue. C'est l'un des passages les plus ardus, des rapides, un torrent de triple croche dévalant entre les rochers. La violence du courant l'entraîne au bout, les chutes où il passe, où il se fracasse. Deux autres coups résonnent contre le battant. Le bouton tourne en vain. Elle a pris soin de s'enfermer à clé. « Emma, sors de là, s'il te plaît. Il s'est réveillé. Mais tu entends ce que je te dis? Il a repris conscience, Emma. Il a ouvert les yeux. » À ces mots, les siens se ferment. Un brusque flux de larmes les remplit, qu'elle retient. Elle serre les paupières. « Mais nom de nom, veux-tu bien ouvrir cette porte à la fin ?» Et alors tout d'un coup le cheval se cabre, elle lâche le clavier, le silence éclate. Ses mains restent en suspens au-dessus des touches. Sa poitrine se soulève. Est-ce sa respiration, est-ce son propre souffle qu'elle entend, ou le halètement de la bête, ou celui du cavalier ? Emma !
Enfin le terme arrive, il court, il vole, il tombe et se relève roi.
Elle se redresse d'un bond, renversant le siège. Un léger vertige la saisit. Elle chancelle sur ses jambes dans l'obscurité. Puis elle se tourne et se précipite vers la porte. Elle fait jouer la clé et ouvre à la volée. À l'homme qui se tient dans l'encadrement, elle jette un regard fébrile, pénétrant. « Je le savais, » dit-elle. Puis elle passe devant lui et traverse le couloir en courant et se lance dans l'escalier. La voici. Elle qui porte ce prénom d'amour déchu, celui d'une héroïne qui cherchait l'or et trouva le plomb. Elle a 26 ans, un visage ovale, un nez charnu, des lèvres pleines donnant l'idée d'un fruit qui n'a pas son pendant dans la nature, qui reste à créer. Son épaisse chevelure ondule, s'écoule libre en longues volutes brunes. Il semble bien que ses iris aient la couleur des grains de café torréfiés. Un portrait digne d'un médaillon. Peut-être eût-il été trop parfait si quelque artiste cruel ou jaloux n'y avait apposé sa griffe. Un trait pâle, une cicatrice qui descend depuis le coin de l'œil jusqu'au coin de la bouche. C'est à peu de choses près le trajet d'une larme, gravée dans la chair à jamais. Elle se tient immobile au pied du lit et le regarde. Il fait un piètre Mazeppa, le crâne serré dans un bandage de crêpe qui lui tient lieu de turban. On a du mal à voir en lui le futur chef des Cosaques, le guerrier fougueux, impitoyable, qui tranchera des têtes à coups de sabre. Pourtant, c'est ce qu'il fera. Mais à cette heure, il gît sous un drap blanc bordé d'un liseré rose fané. Il ignore ce qu'il a traversé. Il y a ce décor qu'il ne connaît pas et au centre, il y a ce visage, cette bouche, ses yeux. Les limbes ne sont pas si loin. Il n'a pas recouvré assez d'esprit pour essayer de comprendre. Il prend l'apparition comme elle vient. Un homme également est présent dans la pièce, vieillard éthique et voûté aux yeux limpides, Amédée Théou, docteur en médecine depuis 50 ans, ami de la famille depuis 30. Il finit de ranger ses instruments dans un gros sac en cuir qui doit dater de sa première consultation. Puis il se tourne vers le blessé, mais ce n'est pas à lui qu'il s'adresse.
Traumatisme crânien, je dois dire que c'est ce qui me préoccupait le plus. Toujours difficile d'évaluer le type de lésion que cela risque d'entraîner. Heureusement, ce garçon a l'air d'avoir la tête dure. Le reste aussi, d'ailleurs. Deux côtes fêlées, l'auriculaire brisé, quelques contusions par-ci par-là. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Il observe la jeune femme par en dessous du coin de l'œil. Une poignée de secondes s'écoule avant que celle-ci ne s'ébranle. Elle s'avance et pénètre dans le halo de la lampe posée sur le chevet. La lueur fauve donne à sa peau le velouté d'un abricot, fait ressortir en revanche la blême couture qui lui barre la joue. Elle se penche vers le garçon. « Au moins j'ai évité le cheval. » Elle chuchote comme pour un conciliabule, un secret qui ne concernerait qu'elle et lui. L'autre homme entre à son tour, son père. Rouge, essoufflé, derrière ses besicles, sous ses paupières lourdes de bons yeux de Saint-Bernard. Il se tamponne le front avec un mouchoir, ouvre la bouche pour parler, mais soudain, une détonation éclate, le laissant quoi ? Une autre suit, des pétards. La jeune femme se redresse, elle contourne le lit et passe devant le médecin et va jusqu'à la fenêtre, tandis que le garçon fait pivoter doucement sa tête sur le coussin pour ne pas la perdre de vue. Qu'a-t-elle encore à lui offrir ? Elle l'a plongée dans les ténèbres, elle l'a arrachée aux ténèbres et après. Elle ouvre les deux battants vitrés et repousse les volets, découpant dans le mur de la chambre un grand rectangle de nuit. « Emma !» soupire le père dans sa barbe. La jeune femme l'ignore. D'un pas chassé, elle s'écarte du cadre et fait volte-face et regarde à nouveau le garçon. Puis elle lui sourit. Et c'est à ce moment précis qu'une fusée s'élève dans le ciel. Le garçon peut la voir par la fenêtre. Il peut l'avoir montée avec un sifflement aigu jusqu'au firmament. Il peut l'avoir explosée et se métamorphoser en un vaste bouquet qui éclot et fleurit l'espace d'un instant dans le champ étoilé, puis aussi vite fane, s'étiole et retombe en fine bruine d'or.
Merde.
Nombre de ravages et quelques ravissements, ainsi qu'il a été dit. Elle s'appelle Emma Van Eyck.
Très bien. Eh bien, c'est pas mal de citer Victor Hugo.
Mmh.
Ah, tout à fait. Je crois qu'on pourrait même faire une émission sur Victor Hugo.
Alors là, je suis partante. Poésie, roman, théâtre et même ses déclarations politiques. Il y a tellement de choses
oui,
à lire.
Vrai.
Comme son texte sur l'importance de la lecture, de savoir lire. Il est génial.
Alors rendez-vous
tout à fait
et prêt. On fera une émission sur Victor Hugo.
On fera un spécial Victor.
Alors, on peut tenir une année avec Victor Hugo.
Et en plus, il peut être très drôle.
En plus. Bien, vous nous rappelez le titre du livre que vous avez lu aujourd'hui ?
Le garçon de Marcus Malte, publié aux éditions Zulma en 2016.
Oui, en 2016. Et question habituelle, avez-vous une petite idée de ce que vous allez nous lire le mois prochain ?
Oui, bien sûr, mais on ne dira rien.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Eh bien, je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour une nouvelle lecture, une lecture d'été. Et je vous dis à bientôt. Au revoir Hervé.
Au revoir
Catherine.
Au revoir, à bientôt.